l'actualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Eh ben, vous êtes sur Radio Kaléidoscope 97 FM et c'est Calibre, une émission de libre antenne qui commence.
Voilà, Calibre, C-A-S pour corps, amour et sexualité.
Oula, tous ces pluriels.
On est le 28 octobre, hein, si jamais vous ne nous écoutez pas en direct. Et puis si vous nous écoutez en direct, donc on rappelle, hein, Calibre c'est une libre antenne, donc vous pouvez nous appeler au 04 76 09 09 09.
Alors pour vous accueillir ce soir au téléphone, c'est Laura et à la technique c'est Noémie. Et puis au micro, bah, c'est Mimi,
Myriam. Et Mélanie.
Voilà, et Mélanie.
Bonne. Allez, ayons la flemme, démarrons par une petite musique. Si, précision, la sélection musicale ce soir est faite par Noémie et Laura. Nous ne savons pas de ce qui se passe si on a les noms, donc on peut annoncer, voilà. Alors là, ça va être Peaches, Talk to Me. Why don't you talk? Nous sommes toujours ensemble sur Calibre.
Nous, on s'est fait une petite fausse joie là pendant la musique parce qu'il y a eu un appel en fait, mais c'est des gens qui savaient pas comment écouter Calibre. Alors du coup, ils ont trouvé le numéro quand même et ils ont appelé, c'est assez fou. Donc si jamais vous avez autour de vous d'autres personnes dans ce cas-là qui voudraient vraiment écouter Calibre mais qui savent pas comment faire, eh bien c'est facile, c'est en direct sur Radio Kaleidoscope tous les jeudis soirs, donc de 20h à 21h, et c'est à peu près 97 FM ou quelques autour de Grenoble. Par contre, ça capte qu'à Grenoble. Et sinon, en direct, soit sur le site de Radio Kaleidoscope, soit sur le site de Calibre, donc cas-libre au pluriel, .poivron.org. Voilà, et vous pouvez réécouter les émissions puisqu'elles sont toutes enregistrées sur le site internet. Voilà. Bon, ceci dit, on avait envie de vous parler de plein de choses ce soir. Vous pouvez bien entendu encore nous appeler pour changer de sujet même, hein, si vous voulez, c'est pas un souci. Mais là, on va démarrer par la lecture d'un texte. Un texte qui est issu d'un bouquin dont on vous a déjà parlé plusieurs fois, qui s'appelle « Mon corps est un champ de bataille », qui sont des récits, des analyses, des témoignages, donc en tout cas le tome 1 sur notre rapport, nos rapports à nos corps. Et après, il y a un tome 2 qui est sorti avec d'autres témoignages, mais bon, celui-là, il est extrait du tome 1. Et c'est un texte, donc, de Lucille.
Donc on va le faire à deux voix, puisqu'il est un peu long,
il est très bien,
hein, mais pour votre plaisir et votre confort auditif, on va le faire à deux voix. Donc, mais c'est la même personne qui écrit. Grosso modo, je peux dire qu'actuellement, je ne me sens relativement pas trop mal dans mon corps. Bon, même si tout n'est pas si simple. Mais je reviens de loin.
J'ai d'abord vécu toute une période, jusqu'à mes 14-15 ans, il me semble, où mon corps ne m'a pas posé de soucis du tout. Il ne comptait pas trop, je ne me posais pas de questions. C'était mon corps d'enfant. Dans les normes, rien à signaler. Pas de retour des autres. À la maison, on se baladait à poil, on faisait du naturisme, tranquille. Simplement, je gobais et m'imbibais tranquillement de la grossophobie, hors-normophobie, tes bizarrophobies, pureté fixation, corps des femmes fixation, mocho-fixation ambiante. Tout imbibé de tout ça. Et les phrases que ma mère nous disait à ma sœur et à moi, du genre « faut s'en foutre du regard des autres » ou « soyez vous-même » ne signifiaient rien et n'avaient aucun poids face à l'énorme discours contraire, de sa part comme de partout.
C'est ainsi que j'attaquais mon adolescence et que j'allais devoir prendre en pleine tronche les changements de mon corps. Preuve de ma propre intégration des valeurs courantes, j'en ai déjà mis un peu dans la tronche des autres. Je me souviens par exemple que je me moquais méchamment de ma sœur, qui de 2 ans plus âgée que moi prenait les fesses au début de son adolescence. Je me souviens aussi de me moquer de copines de classe qui avaient quelques boutons sur le visage, étant bien entendu que je pensais que ça ne m'arriverait pas à moi. Bref, j'étais conne, et cela n'allait pas m'aider lorsque tout cela allait m'arriver. Et donc, tout cela m'est arrivé.
Dans un premier temps, ça allait assez bien dans ma tête, quand ce sont les réflexions que j'ai subies qui ont commencé à me déstabiliser. Un gars de ma classe, en première, j'avais environ 16 ans, qui me lance « T'es bien, mais avec 2 kilos en moins, tu serais parfaite !» Et cette horrible impression de gêne mêlée de flatterie sous cet œil qui juge et qui pèse en expert.
Et mes 3 copines de terminale, avec lesquelles on discutait un jour des complexes liés à la grosseur, et qui disaient que, ah ouais, avoir du bide, c'est vraiment honteux et dégueu. C'était plutôt nouveau pour moi. Fesses et cuisses, je comprenais, mais pas le ventre. Ça a commencé alors à me mettre la pression aussi de ce côté-là.
Et ma mère, en regardant mes doigts, toute désolée qu'ils ne soient plus longs et fins, suite au fait que j'ai eu grossi. Quand je pense que tu avais de si belles mains, les réflexions des autres, l'énorme pression ambiante sur le corps des femmes, je ne développe pas, ont ainsi fait que j'ai commencé à ne plus me sentir bien du tout dans mon corps, qui commençait à ne plus être dans les normes. C'est-à-dire, j'étais grosse et je faisais de la boulimie. J'avais des boutons sur le visage, sur le corps, visage, dos, poitrine, bras, et j'avais plus de poils que ceux qui se faisaient autour de moi.
C'est ainsi que je commençais à passer quelques années à me dégoûter physiquement, j'étais un monstre, me dégoûter psychologiquement, car en plus j'étais responsable de tout cela. C'est que je comprenais à ce moment-là. Ma grosseur était due à la boulimie, et si j'avais des boutons, c'est que je les tripotais sans cesse, Donc, j'étais responsable. Et en plus, il paraissait, d'après les analyses que je pouvais glaner ici et là, que c'était de l'autodestruction. J'avais tout ça à porter. Je me dégoûtais.
Ça veut dire avoir envie de pleurer quand je me regardais dans la glace. Et que j'avais envie de partir en courant quand je me voyais en photo. Cet état d'esprit était omniprésent dans mon rapport aux autres. S'effacer devant celui ou celle à qui je parle. Baisser les yeux. Et penser sans cesse, j'ai d'horribles boutons, j'ai un double menton. Et toujours en toile de fond, ces gestes qui prennent tant d'énergie. Et qui sont tirer mon pull sur mon ventre. Ou pour mieux, cacher mes fesses. Ne pas s'asseoir comme ça, ça écrase les cuisses. Ne pas se tenir comme ça, ça met en évidence le double menton. Relever cette chaussette qui descend pour ne pas laisser apercevoir mes poils. Vérifier d'un coup d'œil que le pantalon ne remonte pas dans cette position-là. Paniquer à l'idée de revoir des amis d'avant, du temps où j'étais mince, trop honte. Me mettre un jean qui serre, dans lequel je me sentirais mal toute la journée, mais avec lequel je fais plus mince. Crever d'envie d'aller me baigner avec les autres, mais feindre d'un air assuré de ne pas avoir trop envie, les regarder hurler dans l'eau, mais avec cette force énorme qui me retenait. Cette force s'appelait complexe. Pour finalement faire mine de tomber dans l'eau, par accident, toute habillée.
Il a fallu du temps pour accepter mon corps, pour l'aimer aussi. Longtemps, j'ai cru que tout irait mieux quand je serais autre. Mince. À un moment, j'ai compris que ça ne changerait peut-être pas. À un autre moment, j'ai accepté. Beaucoup plus tard, j'ai désiré ne plus changer mon corps dans le sens imposé. Tout cela s'est bien sûr fait par étapes. Parfois d'un bloc, d'autres fois petit à petit. Il y a eu les discussions du groupe non mixte femmes. Pouvoir en parler, pouvoir politiser, prendre de la force. Les lectures féministes et les nombreuses discussions avec des femmes sur ce sujet.
Être entouré de femmes, c'est aussi avoir un autre regard sur soi, une pression moindre. Et mes désirs et mes relations amoureuses pour des femmes ont joué pour me retirer une grosse pression sur la grosseur de mon corps. Le travail sur la grosseur que j'ai effectué a changé ma vision des autres filles hors normes. Et c'est un retour permanent. J'aime voir les autres filles grosses. Et si je suis dans une période où je me trouve mal car j'ai grossi, je pense « Ah oui, ces filles sont à rejeter alors, non !» Eh bien, tout est ok, alors où est le malaise? Et l'effet est immédiat.
Car ces périodes existent encore, rien n'est complètement acquis. Je ne suis pas toujours bien dans ce corps qui change de temps en temps. Il me faut une période de réadaptation à chaque fois. Mais je n'ai plus trop de haine envers mon corps, envers moi.
Voilà, c'est la fin du texte, donc issu de mon corps est en champ de bataille. Alors on a coupé un petit peu quelques passages pour raccourcir. Qu'est-ce qu'on avait envie de dire? Oui, si, peut-être une petite précision que pas forcément associer grosseur et boulimie. Enfin, c'est bon, là c'est un cas particulier et c'est vrai que c'est. Enfin, on a aussi un rapport à la nourriture en tant que femme qui est souvent compliqué. Mais bon, c'est pas forcément un lien direct entre boulimie et corpulence ou grosseur ou je sais pas comment
ou
on veut l'appeler.
Enfin, ou le sens, ou la l'appréciation de soi comme étant grosse.
Ouais.
Mais en fait, on avait aussi pas mal envie de vous lire ce texte parce qu'en fait, on a reçu à Calibre une invitation à un week-end et qui s'adresse aussi peut-être à vous. Donc voilà, peut-être Mimi, tu peux plus expliquer c'est quoi ce week-end.
Ouais. Alors c'est un week-end qui s'appelle Énorme avec un S entre parenthèses, Énorme Week-end. En gros, c'est un week-end qui va être organisé, un gros week-end hein, aussi, c'est pour ça qu'il est énorme, c'est du vendredi au lundi. Et il va être organisé vers Grenoble ou sur Grenoble, c'est une rencontre sur le rapport au poids et à la grosseur. Vous voyez le lien avec le texte d'avant, maligne hein. Donc voilà, je peux vous lire un petit peu ce qu'on a reçu comme message, donc à savoir que... ces 4 jours vont se passer. Cette rencontre sera en non-mixité meuf gwyn trans. Peut-être on peut s'arrêter direct pour expliquer ce que c'est, la non-mixité meuf gwyn trans. En fait, c'est plutôt une mixité choisie, c'est-à-dire que c'est une rencontre entre personnes qui se définissent comme meuf. Ou, alors, meuf, c'est utilisé pour plutôt parler de personnes, a priori, de sexe féminin. mais qui n'ont pas forcément envie de s'identifier comme femme, féminine, enfin voilà, je sais pas. Du coup, meuf, c'est voilà, c'est un mot qui est utilisé comme ça. Gwyn, on pourrait penser que, comment ça, Gwyn, toutes les lesbiennes sont forcément des femmes par définition. Mais encore une fois, il y en a qui n'ont pas envie de se définir comme femme, on va dire cette identité un petit peu naturelle, essentielle, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que ce terme est utilisé, parce que aussi ça peut être Gwyn, ça peut être une identité politique forte aussi. Et trans, eh ben, ce sont les personnes qui transitionnent d'un genre à l'autre, du masculin vers le féminin ou l'inverse, soit vers justement un dégenrement. C'est-à-dire, ça va être par exemple des personnes qui sont nées avec un sexe génital féminin, qui veulent plus être identifiées comme femmes, mais qui veulent pas non plus s'identifier à des hommes. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc je reprends. Donc c'est une rencontre qui se passe en non-mixité meuf Gwyn trans, mais dans le week-end il y aura deux types de moments, donc les moments de rencontre, la rencontre en elle-même qui seront en non-mixité grosse, alors c'est encore meuf Gwyn trans et grosse, donc les personnes qui s'auto-définissent ou s'auto-voient comme grosse, et puis il y aura des moments publics en soirée qui seront publics mais toujours en non-mixité meuf Gwyn trans, pas forcément grosse. Voilà le programme. Les moments de rencontre entre grosses seront des ateliers d'écriture, des discussions, des projections privées et puis plein de surprises. Et il y aura deux soirées publiques. Le samedi, une fête avec un repas super calorique intitulé « Les Dodus d'Andine ». Et le dimanche, la projection du film « Precious » de Lee Daniels, suivi d'une discussion. Voilà, donc ça sera du 26 au 29 novembre 2010 à Grenoble.
Et alors du coup, c'est ce week-end-là, c'est organisé par des personnes qui font partie de Dégenré, qui est une émission de radio qui diffuse aussi sur Radio Kaléidoscope le premier et le troisième mercredi du mois, et rediffusé le lundi suivant, donc le deuxième et le quatrième lundi du mois. Et qui, du coup, c'est une émission féministe qui parle de plein de sujets différents. Les émissions sont téléchargeables sur radio.indymedia.org. Donc voilà. Et du coup, si ce week-end et cet énorme week-end vous intéresse, vous avez envie d'y participer, soit sur les temps en non mixité grosse, soit sur les temps publics ou je sais pas quoi, eh ben vous pouvez écrire à Dégenré pour avoir de plus amples informations. Et donc on va vous donner l'adresse mail de Dégenré, c'est Dégenré, Dégenré at Pimienta, Pimenta, Pimienta, donc c'est Pimienta.org.
On vous retrouverait tout ça sur le en dessous de l'émission, quand on l'aura mise en ligne, il y aura les contacts.
Voilà, toutes les références de ce dont on parle. Et voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus
Cette rencontre, c'est, je pense, dans un premier temps, l'objectif, c'est de se rencontrer, de discuter un petit peu, pour repartir du témoignage de Lucille, là, du texte qu'on a lu. C'est vrai que c'est des problématiques qui nous touchent, qui touchent pas mal d'entre nous. Et on se sent vraiment plus forte après en avoir discuté avec d'autres personnes, à construire des stratégies aussi ensemble. Et ce qu'elles disent, les meufs qui organisent ça, c'est que ce week-end-là de rencontre, ça serait énorme à la fois pour partager, se rencontrer, être moins isolé, donc ça c'est ce qu'on a dit, aussi pour créer un discours et une visibilité autour de l'oppression de la grosseur, encore une fois, de trouver des stratégies ensemble, se sentir plus forte et visibiliser un message, et puis peut-être pour créer, allez, allons-y, un projet politique balèze autour des questions de poids et pour pouvoir diffuser des idées. Bon, mais l'idée principale, c'est quand même de se rencontrer et de peut-être commencer à préparer aussi. Il y aura une émission thématique de Dégenré sur cette question-là qui sera début décembre, je crois, le 8 décembre. Envie peut-être de lancer un appel à contribution pour écrire d'autres textes. Enfin voilà, plein de choses.
Et puis je pense que du coup, je peux pouvoir dire que au moins sur les soirées publiques, Pendant tout ce week-end, il y aura sûrement aussi des textes qui seront diffusés, disponibles pour les personnes à qui ça, que ça intéresserait aussi de bouquiner des trucs qui ont été écrits là-dessus. Et du coup, je fais la petite promotion d'une petite brochure qui n'est pas sur Internet, mais que vous trouverez peut-être sur une table de presse lors de ce week-end, qui s'appelle « Grève de la faim ». Et qui est un peu sur le mode BD, qui envisage un peu différentes l'oppression de la grosseur sous différents aspects en fait, et du coup qui donne à réfléchir. Voilà, elle s'appelle Grève de la faim et vous la trouverez pas sur Internet.
Donc je vous redonne les dates. Ce sera du vendredi 26 au lundi 29 novembre, donc les vendredis et lundis inclus. Voilà, donc encore une fois, vous retrouverez les infos sur notre site internet.
Ben voilà, peut-être qu'on peut s'écouter une petite musique. On redonne le numéro de téléphone avant. Donc vous pouvez nous appeler au 04 76 09 09 09 pour nous parler, nous poser des questions sur votre rapport au corps, sur votre sexualité, sur vos relations amoureuses, affectives, tout ça, tout ça.
Il n'y a pas de mauvaises questions.
Et il n'y a pas de tabou ni de jugement.
Il n'y a pas de tabou.
Et alors, qu'est-ce qu'on écoute, Mimi ?
Alors, on écoute The Dresden Dolls. Alors, Coin Operetti de Boy.
Coin Operated Boy, sitting on the shelf. He is just a toy, but I turn him on. And he comes to life, automatic joy. That is why I want a coin operated boy. Made of plastic and elastic, he is rugged and long lasting. Who could ever, ever ask for more? Love without complications galore. Many shapes and weights to choose from. I will never leave my bedroom. I will never cry at night again. Wrap my arms around him and pretend. Coin operated boy, all the other real ones that I destroy. Cannot hold a candle to my new boy, and I'll never let him go. And I'll never be alone, and I'll never let with my coin operated boy. Thank you.
Toujours nous appeler au 04 76 09 09 09.
Et puis, bon, bah, comme souvent, on est allé un petit peu farfouiller sur des forums internet. Et pour une fois, je dois avouer que j'en ai trouvé un peu moins stupide que les autres. Enfin, surtout en ce qui concerne les réponses. Parce que souvent, c'est quand même du gros foutage de gueule. Là, quand même, pour une fois, il y a des choses. Bon, je suis pas d'accord avec tout, mais c'est pas le but. Et je trouve que voilà, il y a vraiment une tentative par les gens sur ce forum de ne pas juger, de, enfin voilà, j'étais assez impressionnée. Bon, c'est évidemment un forum québécois. voilà, si vous êtes intéressés, vous avez qu'à nous.
Évidemment, un forum québécois.
Non, mais c'est vrai, il y a quand même, je trouve, au Québec, une certaine avancée des mentalités sur les questions de sexualité.
C'est vrai, mais je pense que vaut mieux l'expliquer comme ça plutôt que de dire évidemment un forum québécois.
Voilà,
je pense que pour pas mal de gens, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais effectivement, il y a peut-être plus d'éducation sexuelle qui est faite au départ.
Je pense que c'est ça la vraie différence avec nous, ce qu'on vit en Europe de l'Ouest, hein, c'est comment la question de l'éducation sexuelle est abordée.
Je pense aussi le sexisme, c'est un autre niveau aussi. Au Canada, enfin en tout cas ils ont pas mal fait avancer les mentalités aussi globalement là-dessus. Je connais pas trop si c'est des mouvements féministes qui ont fait vraiment avancer le truc ou si c'est que nous on est vraiment restés ancrés dans des représentations. Je sais pas, mais en tout cas il paraît que
pareil, j'ai jamais mis de pied, je pense. Bon, bref. Et parmi ces petites questions de forum, donc on a sélectionné quelques-uns. On va démarrer par un et puis on verra. Si vous avez envie de nous appeler pour parler d'autre chose ou de la même chose, n'hésitez pas. Ah oui, c'est toi qui lis.
Je suis avec ma nouvelle copine depuis quelques temps. Et en fait, elle ne ressent rien quand on lui caresse malaxe, masse, les seins. Je voulais savoir si c'est normal, si c'est un blocage. Faut savoir que je suis son premier copain. S'il y en a d'autres qui sont dans ce cas. Et est-ce qu'elle risque de ne rien ressentir lorsqu'on fera l'amour? Et sinon, qu'est-ce que vous me conseillez pour lui faire atteindre le nirvana? Son plaisir compte beaucoup pour moi. J'en profite pour vous demander aussi, sachant qu'elle est vierge, si je peux envisager de faire les préliminaires même sans suite. En fait, elle veut bien qu'on couche ensemble, mais moi, je veux que ce soit le bon lieu, le bon moment pour sa première fois. Puis, est-ce que je peux envisager de lui demander de me faire une fellation? Si vous pensez que oui, comment? Ta-na-na.
Ah, bah plein de choses à dire sur ce petit. Donc c'est a priori un jeune gars hein, qui écrit, on ne sait pas plus. Il y a plein de choses. Il y a encore une fois cette vision un petit peu de l'amour, l'amour sublimant, l'amour un petit peu faire l'amour pour la première fois au bon endroit, au bon moment. C'est une image que moi j'aime pas trop, ce truc de il faut que ce soit le bon endroit, le bon moment, parce que l'amour c'est hyper précieux, hyper sacré.
Moi ce qui me gêne le plus, à vrai dire, c'est que elle a l'air ok pour faire du sexe avec lui, faire l'amour avec lui, coucher avec lui, peu importe quel terme on a envie d'employer, mais que lui il veut que ça soit le bon moment ou je sais pas quoi.
Voilà, il décrète que c'est pas son bon moment à elle, alors que a priori elle, dans ce qu'elle dit en tout cas, elle aurait envie quoi.
Donc ouais, moi déjà je crois que c'est une des premières choses que j'aurais envie de lui répondre, c'est le premier, enfin ce qui est hyper important quand on partage une sexualité, c'est le consentement. Enfin, au-delà même de à quoi on consent de partager, quelles sont les pratiques qu'on a envie de partager, tout ça, c'est déjà.
Est-ce qu'on a envie de partager des pratiques sexuelles ensemble?
Et moi, je comprendrais que pour lui, ils disent, non, moi, j'ai pas envie encore avec toi de faire l'amour ou je sais pas quoi, mais qu'ils se disent pas que c'est mieux pour elle, quoi. Mm. C'est à elle de décider quand est-ce qu'elle elle a envie.
Ouais. Tout à fait d'accord.
Après, sur ce truc de première fois aussi, qu'est-ce que ça cache, quoi? La première fois, on dirait moi, ce que j'ai l'impression que ça veut dire, c'est la première fois qui la pénètre.
Ouais, oui, parce que a priori, déjà, s'il y a des jeux autour des seins, donc on va en reparler aussi de ça, que apparemment elle apprécie pas trop, mais en tout cas, elle prend pas de plaisir d'après ce qu'il dit lui. Mais ça veut dire qu'en fait, il y a déjà des relations sexuelles, en fait. Parce qu'il divise vachement les trucs en préliminaire, quand on fera l'amour, machin. Et ça, c'est un truc dont on a déjà un petit peu parlé sur Calibre, c'est-à-dire que. Bon, moi, perso, c'est clair, je pense que Mel aussi, on n'a pas une vision aussi hachée, on va dire, d'un processus de relation sexuelle. Il y aurait d'abord, on se toucherait le bout des seins ou le bout de l'orteil, j'en sais rien, puis on arriverait à l'épaule, puis...
Puis après le sexe oral, et puis après la pénétration, quoi.
Et une fois qu'il y a pénétration, coït, éjaculation, c'est fini.
Voilà, ça y est, on est épanoui.
Eh bien non.
On a atteint le nirvana. Non, mais ça, moi, je crois que l'idée, c'est pas de casser du sucre sur le dos de jeune homme. Hein. Je crois que effectivement, il a l'air assez jeune, et puis je pense que on est aussi vachement empreint de toutes ces représentations là, de comment doit se passer une relation sexuelle et qu'est-ce qu'on doit aussi partager petit à petit avec un partenaire quand on le rencontre. Et encore une fois, moi, je crois que j'ai envie de dire que ce qui compte, c'est plutôt ce qu'on décide de faire ensemble plutôt que dans quel ordre on le fait. Et pour sa question sur la fellation, par exemple, moi, je crois que j'ai juste envie de lui dire, t'as qu'à lui demander. Et puis, si elle veut bien, si ça lui fait plaisir, c'est cool. Et puis, sinon, ça se passera peut-être à un autre moment ou jamais.
Bon, après, il faut faire attention à la manière dont on demande, parce qu'on peut demander avec une forte incitation à le faire, ou on peut vraiment poser la question de, qu'est-ce que t'en penses, qu'on pratique ça.
Oui, je pense que c'est important de créer un cadre de discussion sur qu'est-ce qu'on choisit comme pratique, parce qu'effectivement, juste tu suces, je pense que chez certaines personnes ça peut très bien passer et tout ça, mais je pense que des fois c'est mieux de vraiment décider qu'on discute de ça, et peut-être même c'est pas forcément dans le moment du rapport sexuel, mais que c'est avant, quoi.
Oui, c'est vrai que quand on est dans le feu de l'action, comme on dit, on a peut-être plus de mal à réfléchir pour soi à ce qu'on a envie, pas vouloir casser une dynamique, par exemple, qui est en cours, pas vouloir frustrer l'autre. Du coup, c'est vrai que ça peut être intéressant de poser cette discussion de ce qu'on a envie d'échanger en termes de sexualité en dehors des actes. Après, ça peut amener une excitation, et puis en dommage collatéral, il va se passer quelque chose. Mais
après, il y a aussi, je pense que sur d'autres trucs, c'est peut-être mieux d'en discuter pendant le moment qu'on partage, parce que par exemple sur l'histoire des seins. Moi, j'ai l'impression que, soit vraiment pour elle, c'est pas du tout une zone érogène, les seins. Et puis,
Donc, zone érogène, c'est zone, en gros, quand on la touche, on ressent du plaisir.
Donc, il aurait qu'à lui caresser les fesses ou la nuque, et peut-être que ça lui ferait autre chose. Enfin, en tout cas, lui demander c'est quoi, c'est où les zones qu'elle aime bien, ou l'épaule, ou j'en sais rien. Mais aussi, il y a des façons de faire. Que des fois, on peut pas simplement deviner, quoi. Et du coup, peut-être qu'effectivement, moi, ça me fait rire, on lui caresse, malaxe, masse les seins. On voit bien toute la gradation que ça peut avoir. Mais du coup, oui, je pense qu'il y a des personnes qui aiment bien qu'on leur pince les tétons. Il y a des personnes qui aiment bien qu'on effleure leurs seins.
D'autres qui aiment bien qu'on les lèche, qu'on les masse, effectivement. Et après, je crois que ça dépend d'une personne à l'autre, mais ça dépend aussi du moment. Enfin, moi, je sais que ça dépend vachement, par exemple, quand je vais avoir mes règles un petit peu avant, j'ai tellement mal au sein que laisse tomber, tu les touches pas, quoi.
pas. Ça fait mal, en fait. Rien que d'effleurer, ça fait mal. Alors qu'à d'autres moments où bah, peut-être ça peut être juste du frôlement, d'autres carrément plus de malaxation. Voilà, donc je pense que ça dépend effectivement d'une personne à l'autre, mais aussi d'un moment à l'autre. Et donc pour ça, effectivement, c'est quand même plus simple d'en parler quand on ressent la chose.
Mais du coup, moi j'ai l'impression que toutes les réponses aux, des questions, toutes les réponses aux questions que se pose ce jeune homme, en fait, c'est sa partenaire qui les a, quoi. Ouais. Enfin, il s'agit juste de trouver le moment et la façon de lui poser les questions et il saura comment lui faire atteindre le nirvana.
Après, peut-être qu'elle ne sait pas non plus, hein, si c'est une personne qui n'a pas encore découvert une sexualité. Je ne parle pas que d'une sexualité à plusieurs, mais ça peut être parce qu'elle peut déjà avoir eu un orgasme en se masturbant. Après, toutes les personnes ne sont pas à l'aise avec la masturbation et ne savent pas forcément ce qui leur fait du bien. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de route déjà claire pour atteindre le nirvana. Ça dépend d'une personne à l'autre, et puis c'est une exploration, quoi. Au bout d'un moment, peut-être qu'on va réussir à trouver des techniques qui marchent à tous les coups. Mais un, pas forcément, et deux, ben, c'est un chemin, quoi.
Alors du coup, des fois, il faut explorer à deux et voilà, tâtonner, genre, ah ouais, comme ça, non, ah non, là, non, ça marche pas. recommence comme ça, ah ouais, c'est pas mal, ça, ouais, on garde, tu l'as. Mais ça peut être aussi, je veux dire, hors contexte, enfin, pas hors contexte, mais seul, essayer de trouver c'est quoi qui nous fait plaisir, et puis l'écrire. Il y a plein de façons d'essayer de découvrir c'est quoi qui nous fait plaisir. En tout cas, je pense que dans la plupart des cas, c'est pas quelque chose qui est inné, quoi. Enfin,
non, c'est sûr.
C'est pas quelque chose qu'on sait depuis toujours et c'est à découvrir, quoi.
Mais moi, c'est clair que j'ai un double handicap. C'est-à-dire, je galère pour effectivement communiquer pendant les ébats sexuels, ce qui me fait du bien, pas du bien. Enfin bon, maintenant, ça va mieux, hein, mais c'est vraiment compliqué pour moi, à un moment, de mettre des paroles quand je suis en train de baiser. Mais même c'est compliqué de mettre des regards. Enfin bon, là, c'est vraiment ce processus en communication autre que corporel, sexuel, qui est compliqué. Donc, j'entends bien que ce soit compliqué de discuter. Et puis oui, je crois que vraiment, il y a une exploration à faire soi, en fait, hein. Alors, ça, on peut ne pas se sentir d'explorer son corps soi-même et de trouver ce qui nous fait du bien. Et dans ce cas, un partenaire ou une partenaire, c'est sûr que ça aide. Après, c'est chouette, du coup, si c'est quelqu'une ou quelqu'un vraiment de confiance avec qui on se sent bien, parce que explorer, ben, ça veut dire qu'on sait pas où on va, quoi.
Ouais, ou alors, je veux dire, ça peut être aussi qu'on a envie d'explorer avec quelqu'un qu'on connaît pas et qui est pas forcément quelqu'un de confiance ou je sais pas quoi, et où du coup, il y aura peut-être moins d'enjeux dans la relation, et du coup, on sera peut-être plus à même d'exprimer des trucs. Enfin, je pense que ça peut dépendre des personnes, en fait, aussi.
Oui, ça dépend aussi de quel est son rapport à pouvoir dire non. Est-ce que c'est plus facile avec des gens très proches, avec des gens plus lointains?
En tout cas, moi, ça m'a fait penser ce petit message de forum à un bouquin que je bouquine un peu de temps en temps, pas du début à la fin, mais j'en lis un peu des passages. On en avait déjà parlé, je pense qu'on était déjà ensemble au micro, mais
c'est possible.
C'est un bouquin qui s'appelle Le Nouveau Rapport Height, HITE. Donc, c'est une enquête, en fait, sur la sexualité féminine, qui avait déjà eu lieu dans les années 70 et qui a été remise à niveau dans les années 2000 et qui passe comme ça à partir de comment on appelle ça, d'interviews de femmes qui essayent un peu de passer au, comment on a, j'ai plus cette expression là, au crible,
ouais,
les différentes pratiques sexuelles féminines, bref. Et du coup, il y a tout un chapitre sur la stimulation clitoridienne Et je trouvais que c'était assez intéressant parce que, en fait, Cher Height, donc l'auteur Height, enfin Cher Height, je sais jamais comment
la meuf, quoi.
La meuf qui a fait l'enquête, elle arrive à montrer que, effectivement, le modèle dominant de la sexualité hétérosexuelle, elle est vachement centrée sur le coït. Et que du coup,
coït, c'est pénétration vaginale hein, uniquement. Hein.
Ouais. Et que du coup, la stimulation du clitoris, ça a pas pour but d'atteindre l'orgasme. Et c'est plutôt considéré dans les préliminaires que c'est la stimulation du clitoris, que ce soit par les doigts, que ce soit par à travers un cunnilingus, enfin tout ça, quoi. De toutes les manières qu'on puisse stimuler un clitoris. Ça a plus comme objectif d'exciter la femme pour la préparer au coït que d'atteindre l'orgasme. Et que du coup, en fait, la stimulation du clitoris, elle se fait soit avant le coït, soit presque même pas, parce que certaines personnes associent ça à la masturbation qui doit être une pratique soit qu'on désapprouve, soit qui ne se fait pas dans le cadre d'une relation sexuelle à plusieurs. Enfin voilà, et du coup, y a aussi ce truc que les femmes, elles culpabilisent d'avoir besoin de ce type d'excitation, de ce type de stimulation pour atteindre l'orgasme. Et du coup, hop, on stimule leur clitoris, ça les excite, hop, coït, et puis rien, quoi, pas d'orgasme, parce que pour une grande partie des femmes, en tout cas, c'est avec la stimulation du clitoris que les femmes atteignent l'orgasme. Mmh. Enfin, c'est pas chez toutes, mais en grande partie.
Dans les personnes interrogées, tout à l'heure, tu racontais, il y a les pourcentages, c'était genre 30% des personnes interrogées et des femmes interrogées qui déclaraient avoir connu un orgasme avec un coït.
Ouais.
Et 45% des personnes interrogées qui déclaraient avoir connu un orgasme suite à une stimulation du clitoris.
Donc quand on dit par un partenaire, non pas par la masturbation, c'est encore un chiffre plus élevé.
D'accord.
Les femmes atteignent l'orgasme le plus souvent par la masturbation en solitaire.
Mmh. Juste petite précision, quand on dit clitoris, si vous êtes des fidèles auditrices et auditeurs de Calibre, maintenant vous savez que le clitoris, ce n'est pas que le clitoris, hein. Mmh. Ce n'est pas que le petit bout qui sort, hein, le petit capuchon là-dessous, le petit bitonio. Le clitoris, il est effectivement dans tout le, on va dire autour du vagin, dans les parois vaginales, puisqu'il descend à l'intérieur. Et du coup, en fait, quand on parle aussi d'orgasme obtenu par un coït, en vrai, c'est le clitoris qui est stimulé de l'intérieur. Mais donc là, la distinction, elle se fait entre, quand on parle là d'orgasme suite à stimulation du clitoris, c'est vraiment le petit bout qui sort, quoi.
Moi, je dirais même que par rapport aux deux, à ton explication du clitoris, moi, je dirais plus que les deux grandes jambes du clitoris, là, qui font à peu près 8 cm, elles se situent plutôt sous les grandes lèvres, et du coup, elles entourent l'entrée du vagin. Donc c'est aussi pour ça que c'est l'entrée du vagin qui est une zone la plus sensible du vagin. Voilà. Bon, et du coup, moi je vous raconte tout ça pourquoi ? Parce que déjà, je crois que j'ai vraiment envie qu'on arrête de croire que stimuler le clitoris, ça fait partie des préliminaires au coït. En fait, c'est une pratique sexuelle en soi. Et puis j'ai aussi envie, comme chère Rite, que les filles elles arrêtent d'avoir peur, de culpabiliser, d'avoir besoin de cette stimulation du clitoris pour atteindre l'orgasme, et que du coup faut le faire, quoi. Enfin, et du coup je vous lis juste la conclusion de ce chapitre parce que je trouve que ça résume un peu bien ce que chère Rite elle en dit.
Cher Height,
ouais. Cher Height. Mais pourquoi n'avons-nous pas le droit de nous caresser ? Pourquoi ne pouvons-nous... c'est dur, hein, ces phrases interro-négatives. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire tout ce qui est nécessaire à notre orgasme ? Alors que l'échange hétérosexuel peut être merveilleux, pourquoi cet échange pour la femme signifie-t-il que c'est l'homme qui doit lui donner son orgasme ? Pourquoi la femme ne pourrait-elle pas se servir de sa propre main pour se conduire vers l'orgasme ? En matière de sexualité comme en tant de domaines, la femme est toujours en train d'attendre des hommes qui lui dispensent les délices de ce monde. Nous pouvons, si nous le voulons, nous procurer nos propres orgasmes. Nous pouvons diriger notre stimulation en remuant notre corps sur celui de l'autre ou en nous stimulant directement comme nous le faisons en nous masturbant. Bien que cette suggestion puisse paraître étrange à première vue, il est important de pouvoir se masturber en présence d'une autre personne. Vous pouvez ainsi avoir en votre puissance votre propre orgasme. Il n'y a aucune raison que ces orgasmes autodispensés ne soient pas aussi beaux, aussi partagés que n'importe quelle autre activité sexuelle. En fait, ils peuvent même être plus beaux et plus partagés. Le tabou qui vous interdit de vous caresser signifie essentiellement que vous n'avez pas le droit d'utiliser votre corps pour votre propre plaisir, qu'il ne vous appartient pas de disposer de lui à cette fin. Mais vous avez des droits sur votre corps. Contrôler votre propre stimulation, c'est symboliquement posséder votre corps et c'est un pas très important vers la liberté. Bon, vous voyez que c'est pas juste une enquête, quoi.
Bon. Eh ben, sur ces belles paroles, on pourrait s'écouter un petit morceau de musique, par exemple. Donc, cette fois, la sélection est Cartouche Pink Gang. Rebonsoir, re-bienvenue sur Calibre pour ces 10 petites dernières minutes. Il est encore temps de nous appeler hein, au 04 76 09 09 09. Oh, j'ai presque oublié le numéro, un truc de fou. Et puis, avant de vous donner quelques petites infos d'agenda pour la semaine prochaine et de conclure, on va se refaire quand même une petite question de forum. Peut-être plus simple que celle d'avant quand même. Alors, y a-t-il des contraceptions qu'on peut avoir sans ordonnance et qui n'est utilisé que à l'occasion? Car mon copain est à l'étranger et il vient bientôt passer un week-end et ne prenant pas la pilule et l'effet du préservatif m'irrite à force.
Donc voilà, donc pour résumer la situation, on a une nana qui dont le partenaire sexuel habite à l'étranger, donc elle le voit ponctuellement. Et du coup, pour le moment, ils utilisent des capotes, mais ça l'irrite. Et elle demande si il y a pas des contraceptions qu'elle pourrait là aller s'acheter direct à la pharmacie sans prescription, sans aller voir un médecin quoi. Alors déjà, je pense que pour résoudre potentiellement le problème de l'irritation avec le préservatif, pensons toujours
au lubrifiant. Non, oui, c'est vrai qu'on a un petit peu des trucs qui reviennent. On est en train de se dire pendant la musique d'ailleurs, des fois on redit les mêmes choses, mais bon, c'est des choses importantes. Et puis pour les nouvelles personnes qui débarquent sur Calibre comme ça, hein, ça fait pas de mal. Donc oui, capote, en tout cas préservatif masculin, lubrifiant, c'est important d'en rajouter. La plupart sont pas assez lubrifiés, donc faut pas hésiter à rajouter un lubrifiant qui soit compatible avec la matière des capotes, hein, donc plutôt à base d'eau. Mais les lubrifiants à base d'eau, ils sèchent plus vite. Donc bon, bref, faut que vous trouviez un petit peu votre
les
lubrifiant.
Les lubrifiants en silicone, ils sont pas compatibles avec les.
Je pense qu'aussi ceux au silicone, oui. Je pense qu'ils sont aussi ok. C'est vrai que c'est les plus.
C'est les plus durables. Enfin, les plus en durables. Tout cas, c'est ce qui.
Ouais.
Ils sèchent moins.
Ouais. Donc ne pas hésiter à rajouter des lubrifiants et un petit peu faire tomber cette sacro-sainte idée de la lubrification doit être naturelle. Si c'est pas assez lubrifié, c'est que la nana, eh ben, elle a pas assez de lubrification naturelle, donc elle désire pas assez. Non, il faut arrêter. Le désir et la lubrification corporelle ne sont pas liés directement. Voilà. Donc ça peut l'être à des moments, mais pas tout le temps, donc ne pas hésiter à mettre du lubrifiant. Et l'autre chose qui peut être intéressante par rapport au préservatif, c'est de tenter les capotes féminines, parce que pour le coup, celles-là, elles sont hyper lubrifiées, quoi. Elles sont vraiment très très lubrifiées.
Et puis du coup, il y a moins de frottement aussi, j'ai l'impression, parce qu'en fait, le préservatif féminin, on peut le mettre déjà quelques heures avant, et puis du coup, c'est un tube aussi, hein, c'est pas en latex, pour le coup, c'est du polyuré. Ah, et la nouvelle génération, c'est du nitrile.
Oui, très bien.
Bref, peu importe. C'est des matières donc on connaît le nom que parce que il y a des capotes qui sont comme ça. Mais du coup, en fait, c'est pareil, sauf que c'est plus large qu'une capote masculine et on peut l'installer à l'intérieur du vagin grâce à un anneau souple qui est à l'intérieur qu'on peut presser, puis du coup ça permet de diriger le tube en nitrile à l'intérieur de son vagin. Et du coup, il y a un autre anneau à l'entrée du tube qu'on dépose sur la vulve. Et du coup, en fait, pendant la pénétration, moi j'ai l'impression que c'est plus lubrifié, mais du coup, il y a moins de frottement aussi, parce qu'en fait, le préservatif féminin reste en place.
Il reste contre les parois, en fait. Du coup, c'est la verge ou le gode qui va aller titiller, se frotter contre le préservatif féminin.
Et d'ailleurs, apparemment, plus on le met en avance, enfin je veux dire on ne le mettait pas non plus 15 jours, hein, mais en fait ce préservatif, il va avec la chaleur du vagin, il va un peu se coller à la paroi du vagin et du coup moins se sentir,
faire une comme un effet seconde peau, vous voyez, seconde muqueuse. Voilà.
Ça veut pas dire non plus qu'il reste à l'intérieur à tout jamais, hein.
Oui, il faut l'enlever après. Par contre, oui, il y a un truc important, c'est qu'il y a deux manières de pouvoir le mettre, et si on décide de mettre le préservatif en avance, on est obligé de le faire avec l'anneau
souple parce qu'on le met soi-même. Mais des fois, ça fait un petit peu peur, suivant le rapport qu'on a à son corps, mettre les doigts dans le vagin, tout ça. Et du coup, ce qu'on sait beaucoup moins, c'est qu'il y a une autre façon de le mettre et qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait avec les capotes masculines. C'est-à-dire, il suffit en fait d'enlever l'anneau souple qui est à l'intérieur. Donc, de toute façon, l'autre, il ne peut pas s'enlever, celui qui reste à l'extérieur de la vulve. Donc, on ne veut pas se tromper. De déposer, délicatement ou pas d'ailleurs, le préservatif sur le god ou la verge ou quoi que ce soit que vous avez envie pour la pénétration. Et après, il faut faire attention lors de la première pénétration de bien le mettre en place, mais en fait on peut l'utiliser comme ça. Donc comme un préservatif masculin en
mais
fait.
Mais moi je pense que même avec un god on peut le mettre toute seule avant avec sans l'anneau. Enfin on peut toute seule, on peut à la place de l'anneau mettre un god et puis l'enfiler toute seule, non? Tu crois pas?
Oui, peut-être, peut-être.
Aussi
oui, 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 sans doute. À tester, on attend vos retours,
vos témoignages
sur les différentes façons de mettre en place une capote féminine. bon bref, mais là on s'est un petit peu écarté, non, ça faisait partie du sujet, mais il y a d'autres choses aussi dans ce sujet-là.
De qu'est-ce qu'on peut prendre comme contraception sans forcément aller voir un médecin? Et du coup, bah, par exemple, il y a les spermicides aussi.
Ouais, moi je pense. En fait, on s'est posé la question en voyant cette question de forum. On s'est dit oui, mais en fait, il y a besoin d'ordonnance pour tout, à part les capotes et tout. Et en fait, le doute qu'on a priori, il y a moyen de trouver des spermicides sans ordonnance. Je pense que ça s'achète en libre service,
en pharmacie.
Donc les spermicides, ça se présente sous plusieurs formes en fait. Hein. Ça peut être des crèmes, ça peut être des ovules, ça peut être des éponges imprégnées de ce spermicide, et qui vont tuer les spermatozoïdes. Du coup, il faut le mettre un petit peu avant, tout ça. Par contre, c'est conseillé de l'utiliser combiné avec une méthode dite barrière. Et les méthodes dites barrières, c'est encore une fois les préservatifs, ou aussi diaphragme ou cap cervical. Vous savez, c'est comment expliquer ça? Diaphragme, c'est comme une espèce de petite coupe en souple qu'on va placer au fond du vagin.
À l'entrée du col de l'utérus, en fait, ça recouvre le col complètement.
Ouais. Et puis la cape cervicale, c'est pas la même matière, c'est un peu plus petit, et faut le mettre vraiment à l'entrée, là pour le coup, vraiment plus à l'entrée du col encore. Voilà, donc ce qui est pas mal dans le cas de cette nana-là, c'est que c'est des contraceptifs qu'on met quand on a envie de l'utiliser, en fait. Et puis qu'après, qu'on enlève, et effectivement, on ne se prend pas des hormones tous les jours si on n'en a pas envie.
Parce que, là, on n'a pas un stérilé toute l'année, alors qu'on a des relations sexuelles assez peu courante. Enfin,
bon, par contre, ça rentre moins dans le cadre de sa question parce que pour un diaphragme ou une cape cervicale, faut prendre des mesures, donc il y a besoin d'une consultation, c'est chez un médecin et ensuite le
gynéco qui sait faire, parce que c'est vrai que c'est des méthodes qui sont moins utilisées. Elles l'étaient beaucoup dans les années 70. Et elles le sont moins, mais suite à la demande de pas mal de femmes, elles reviennent quand même au goût du jour. Et je pense que peut-être le meilleur endroit pour avoir des médecins qui soient un peu à jour sur ces méthodes-là, c'est le planning familial.
Ouais, parce que c'est vrai que je crois qu'il y a des pharmacies ou des médecins qui disent que ça se fabrique plus. Alors je suis en train de chercher, mais je l'ai plus. Bon bref, peu importe. Il y a un laboratoire pharmaceutique qui les fabrique. Voilà, à l'occasion, si vous voulez, vous pouvez nous appeler, on vous donnera le nom quand on l'aura retrouvé.
Ben voilà.
Voilà, un petit point rapide d'agenda, rapido, avant de se dire au revoir. Alors, la semaine prochaine, eh bien, nous sommes gâtés parce que, entre autres choses, il y a deux soirées. La première, c'est jeudi prochain, donc le 4 novembre, à 19h, et ça se passe sur Fontaine. Et c'est un cycle de rencontres, discussions sur des questions de genre et notamment sur la mixité. Homme-femme. Et cette première rencontre-là s'appelle la domination masculine ou comment se construit le genre. Donc ces rencontres, en gros, c'est apéro-rencontre avec d'abord un temps d'exposé, puis discussion autour d'un apéro. Du coup, ça se passe sur Fontaine, à l'Artisterie Fine, qui est 1 avenue Aristide Briand, donc le jeudi 4 novembre à 19h. Je crois que l'idée, c'est d'amener un truc à grignoter et puis peut-être de prévenir, parce que le local n'est pas très grand, si vous voulez y aller. Voilà, ça c'est pour le jeudi. Et le lendemain, le vendredi 5 novembre, ça je vous en avais déjà parlé une fois, donc c'est à l'occasion de la sortie d'un livre d'Adrienne Rich, donc une féministe assez connue apparemment, que moi je connaissais pas, des États-Unis. Et donc là c'est la traduction en français d'un bouquin qui s'appelle « La contrainte à l'hétérosexualité et autres essais ». Et cette présentation-là, donc le bouquin, il est co-publié par les Nouvelles Questions Féministes et les éditions Mamélis. Donc ils sont des éditions qui éditent des bouquins plutôt autour de la santé des femmes, écrites par des militantes. Et là, c'est la nana des éditions Mamélis qui va venir, qui s'appelle Rina Nissim, on va dire. Et donc ça se passe le vendredi 5 novembre à 18h au local Des Voix d'Elle, sur Grenoble, qui se situe au 8 rue Sergent Bobillot.
Pas très loin de la caserne de Beaune.
Oui, c'est ça, vers l'Aigle, là, je dirais. Ouais. Entre l'Aigle et la caserne de Beaune, un truc comme ça. Voilà pour le point agenda de cette fois-ci.
Voilà, ben alors on était le 28 octobre 2010. Ce soir, l'équipe, c'était Laura, Noémie, Myriam et Mélanie.
Voilà, vous pouvez réécouter cette émission dès qu'elle sera téléchargeable ou réécoutable sur le site internet de Calibre dont on a déjà parlé tout à l'heure, donc je vous épargne.
On rappelle quand même l'adresse, non ?
Allez !
Calibre, donc cas-libre au pluriel, .poivron.org. Et là, vous trouverez toutes les infos, notre adresse mail, tout ça, tout ça. Et donc, on vous dit à la semaine prochaine, jeudi 4 novembre.
Absolument. Et puis, passez une bonne soirée.
Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.